RMC Grand Plateau, Christophe Cessieux.
Salut à tous, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle ou bien qu'il chute, rien décidément n'arrête Poggi, le champion slovène est fait d'un autre métal que les autres, un alliage incassable qui lui a permis ce samedi de remporter les Strade Bianche malgré une gamelle impressionnante à 50 km de l'arrivée. Et aujourd'hui dans le Grand Plateau, nous allons évidemment revenir sur ce fait de course qui a rendu la classique italienne bien plus trépidante que prévu, même si au bout du compte, eh bien c'est finalement toujours le même qui finit par l'emporter. Une gamelle qui pourrait avoir des conséquences à court terme sur la saison de Pogacar, non pas en raison de ses blessures, mais plutôt en raison de la peur que cette chute a inspirée au staff de son équipe. Alors fera-t-il ou non Paris-Roubaix ? Ou bien la raison, l'importance du Tour de France l'emporteront-ils sur la volonté du champion ? On en débat dans un instant. Et pendant que Poggi fait des cascades sur les chemins de Toscane, Jonas Vingegaard lui serre les dents et va tenter tout au long de cette semaine qui le conduira vers la Côte d'Azur d'éviter les gamelles, de parfaire sa forme et de montrer qu'il est bien encore le patron de la Visma. Un statut que son lieutenant et vainqueur sortant de Paris-Nice, Matteo Jorgensen, pourrait bien lui disputer. L'Américain est très ambitieux et plutôt du genre pressé. Là aussi débat dans quelques minutes dans Grand Plateau. Avec un plateau, justement, parlons-en de très haut niveau, composé de la quasi-totalité de l'équipe qui vous fera vivre le Tour sur RMC l'été prochain. À condition, évidemment, d'éviter les gamelles et autres obstacles impromptus. Jérôme Pinault, par exemple, en sera, ben oui, après l'équipe en développement, il revient dans l'équipe majeure, évidemment, dans la World Tour d'RMC. Et il sera avec nous au mois de juillet. Ça nous promet encore des nuits agitées avec Jérôme Pinault. C'est ça le souci. Ça va, mon GG.
Ça va très, très bien. Les nuits agitées, je ne sais pas. En tout cas, je suis concentré. Et figure-toi, pour ne pas chuter jusqu'au mois de juillet, j'ai choisi de ne pas prendre de risque. J'ai remis les stabilisateurs. J'ai mis les trois roues derrière. Comme ça, je suis peinard. Je ne vais pas tomber dans les virages.
Les petits trous. Tu les as remis.
Exactement. Les petits trous. Objectif juillet, donc petits trous. Et pas de risque.
Très bien. Les obstacles, il a su les éviter et parfois les éliminer. Ben oui, c'est un tueur. C'est au choix. Pierre-Yves Leroux est avec nous. Salut Piou.
Salut Christophe. Bah disons, pour être à l'arrivée, faut pas se glisser dans les mauvaises échappées, tu vois. C'est ça la
T'as toujours trouvé ta place dans les bons groupes.
Pour être sur la ligne.
Ouais, exactement. Pour être sur la ligne, on est évidemment ravis de te compter parmi nous cet été. Et puis, Kevin Morand, lui aussi, sera là cet été. Lui qui a commenté ce week-end son premier sprint en direct avec efficacité. Cité, même s'il en menait pas large avant le dernier kilomètre. Salut Kevin, bon bah ça
salut
s'est bien
Christophe,
passé finalement. C'est pas si dur que ça.
Oui. Bah, scénario idéal, hein. Le grand favori qui gagne, maillot distinctif, champion d'Europe, c'était parfait.
Voilà, Tim Merlier qui a remporté donc dimanche la première étape de Paris-Nice. Il y a encore une étape au sprint ce lundi et ensuite il y aura d'autres choses encore plus réjouissantes sur cette course au soleil dont on reparlera tout à l'heure. Lui non plus n'en menait pas large lorsqu'à 50 km de l'arrivée des Strade Bianche lancés en pleine descente, sa roue arrière s'est soudainement dérobée, l'envoyant faire un roulé-boulé dans la caillasse. Tadej Pogacar s'est fait une belle trouille ce samedi et pourtant 50 km plus loin, il levait une nouvelle fois les bras en vainqueur.
Le champion du monde qui a chuté, Tadej Pogacar, alors qu'on est à 50 km de l'arrivée, dans un virage, il se penche légèrement trop sur la gauche et il valse jusque dans l'herbe. Il fait vraiment une grosse, grosse chute. Il arrive à se relever, à repartir. Il a placé son attaque à 19 km de l'arrivée dans l'avant-dernier secteur de chemin blanc, le collet Pinzuto. Avec ses stigmates de Tadej Pogacar, l'épaule en sang, le genou en sang, le poignet, le coude également avec cette chute dont je vous parlais il y a 50 km. Mais un Tadej Pogacar, champion du monde, un champion du monde, c'est une première, vainqueur ici sur les Strade Bianche. Pour la troisième fois, il va inscrire son nom au palmarès. Malgré les blessures, malgré cette chute spectaculaire, il a réussi à lâcher Tom Pidcock il y a 18 km maintenant. Il lève les bras avec ses traces de cette blessure. Le maillot de champion du monde est complètement déchiré, il est sali, mais c'est bien Tadej Pogacar, les deux bras levés, qui s'impose et qui passe la ligne, qui applaudit et qui est très très heureux parce que ça a été très difficile cette troisième victoire. Mais il s'impose à nouveau ici à Sienne.
Voilà, une chute impressionnante, heureusement sans grosses conséquences pour le Slovène, rien de bien grave, seule la carrosserie a été rayée, ainsi que le trouillomètre qui lui est monté très haut. Une chute que le champion slovène ne doit Jérôme qu'à lui-même, hein. Il a pris trop de risques sur ce coup-là et à un moment, dans une descente, quand tu es complètement penché sur le côté gauche, la roue peut se dérober et peut glisser, c'est ce qui s'est passé.
Ouais, c'est une erreur technique et j'allais même dire que c'est une erreur d'ego à ego. Il a voulu jouer à égal avec Tom Pitcock. Tu sais descendre,
ouais,
moi aussi. Moi
descendeur.
Aussi, je suis doué. Ouais. Je vais te montrer comment il faut faire. Et il est arrivé beaucoup trop vite. C'est le même virage dans lequel est tombé Pauline Ferrand-Prévot. C'est le même endroit, un endroit dangereux. Il a pris trop de risques. Maintenant, comme on dit, parfois, on est porté par une espèce de d'âme ailleurs, qui vient d'ailleurs. Et il ne s'est pas fait mal. N'importe quel autre coureur se serait pulvérisé. Lui, il ne s'est pas fait mal. C'est une vraie grosse erreur technique de sa part. Il est arrivé beaucoup trop vite dans ce virage, mais il s'en sort indemne et il repart et il gagne. Mon ami Daniel Mangias aurait dit à l'époque, un blessé comme cela, on tirait la bâche, on arrêtait le match et on attendait. Bah, lui, il est reparti, il a gagné la course. C'est un énorme champion. Par contre, il a pris énormément de risques et ça lui a peut-être rappelé que aucun coureur n'est à l'abri de ce genre de choses et qu'il faut être parfois raisonnable dans son choix de course. Il a gagné cette course, certes, mais oui, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, ça lui a maintenant amené beaucoup, beaucoup d'interrogations sur la suite de son programme.
Ouais, ça, on en parlera tout à l'heure. C'est pas la première fois que Pogacar chute, évidemment, ça arrive à tous les coureurs. On se souvient d'une blessure au poignet, je crois, c'est ça, hein, Pierre-Yves,
ouais, sur Liège-Bastogne-Liège.
Ouais, sur Liège-Bastogne-Liège. Ouais. Là, comme le disait Jérôme, il était à la bagarre avec Pitcock et avec Pogacar. Il faut toujours que ce soit dans le challenge, même en descente, quand il n'y a aucun risque à prendre et que Pitcock va pas l'attaquer là. Il voulait faire la course, quoi.
Oui, et même si c'était pas la stratégie, hein, Tim Wellens l'a expliqué, de partir si tôt, parce qu'ils sont quand même partis tous les deux à combien
68 km de l'arrivée.
Dans ce secteur de Montée-Sainte-Marie, comme l'année dernière, quasiment, exactement. Et c'est tout simplement parce que Pitcock a décidé de passer à l'attaque. Et c'était déjà pour les spectateurs un moment assez agréable dans cette course de voir que c'était pas finalement Pogacar qui décidait de faire la course. Et derrière, il y a eu vraiment ce duel. Hein. Il y a eu que ça finalement dans cette course, ce duel et cette chute qui a mis du suspense. Mais au moins, on a vécu une édition des Strade Bianche plus agréable que l'année dernière.
Ah oui, il y a eu du suspense, il y a eu une belle bagarre. Et puis, on se posait la question quand même de savoir si Pogacar n'allait pas se ressentir des effets de sa chute. Ça n'a pas été le cas. Pogacar s'est donc relevé très vite après sa chute sans vraiment paniquer. Il a d'abord fait un check-up rapide de son état avant de remonter sur son vélo. Le vélo était un peu plus touché. Il nous explique ce qu'il s'est passé à ce moment-là. On l'écoute.
Ce n'est pas la meilleure façon de gagner une course, mais c'est une victoire malgré tout. J'espère que ça ne sera pas plus grave que ce que ça semble être. Ça devrait aller. Je pense que j'allais trop vite. Je connais très bien cette route. J'ai roulé dessus au moins 20 fois. Mais parfois, on jauge mal notre trajectoire. Et là, j'ai glissé et je suis tombé. Pour l'instant, je ne sais pas si tout va bien. Le vélo n'allait plus, donc j'ai dû le changer. J'étais un peu inquiet parce que quand vous tombez, le corps encaisse beaucoup. Mais j'ai quand même pu finir la course.
Voilà, Tadej Pogacar interrogé une heure plus tard sur la ligne d'arrivée en sa qualité de vainqueur, car Rui Poggi, après cette chute, s'est donc remis en route, a rattrapé ses compagnons d'échappée. Les gamelles, Jérôme, ce sont le quotidien des coureurs cyclistes, mais parvenir comme ça, comme le disait tout à l'heure Pierre, il va repartir, à rattraper l'échappée avant de lâcher à nouveau tout le monde et finir en solitaire, ça c'est pas commun, ça il n'y a que Pogacar qui est capable de faire ça.
Il n'y a que Pogacar qui est capable de faire ça et il n'y a que Tom Pitcock qui est capable, avec son ego à lui, de vouloir être champion que s'il bat le meilleur des grands champions. C'est-à-dire que Pitcock l'a attendu. Et on l'a vu sur les images, il a attendu Pogacar et il l'a déclaré après l'arrivée, on ne gagne pas un monument comme ça. Il l'a attendu, faute ou pas faute, en tout cas c'est tout à son honneur, même si, selon moi, si tu veux battre Pogacar, il faut faire en sorte que toutes les problématiques de la course lui viennent en positivité. Et là, ce n'était pas le cas, puisque Pitcock aurait très bien pu profiter de la chute de Pogacar.
Ouais. Il a roulé pour faire deux.
Je ne sais pas, s'il n'attend pas sur le coup, tu ne sais pas ce qui peut arriver. C'est-à-dire que Pogacar peut douter. Et dans l'adrénaline, Pogacar est rentré très vite. Et on le sait tous, quand on a chuté à vélo dans une course, ce n'est pas sur le moment que ça fait mal, c'est à la longue. Il restait quand même pas mal de kilomètres. Maintenant, le plus fort du monde sur un vélo aujourd'hui s'appelle Tadej Pogacar. Qu'est-ce que tu fais quand le mec il tombe ? Tu fais deux derrière lui et tu dis « j'ai tous les honneurs, je l'ai attendu ». C'est une une espèce de défaite avec les honneurs où tu l'attends pas et tu te fais débouler et encore et la défaite est encore plus terrible.
Mais Pico, c'est aussi peut-être dans la com. C'est aussi peut-être la crainte qui inspire Pogacar à ses adversaires.
Bien sûr,
tout
Christophe,
ça qu'il va finir par revenir, même s'il est blessé, même s'il a une jambe en moins.
C'est-à-dire que ça faisait peut-être quelques kilomètres qu'il avait mal dans la roue. Il s'est dit, au moins les 15 prochains, je vais souffler, je vais attendre.
Ouais.
Cela dit, Pico, pour moi, la finalité était la même. Il s'est fait très peur parce qu'on le voit réagir dans le kilomètre qui suit en secouant la tête, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il a fait lui-même a pas bien géré, mais en plus il aurait pu me faire chuter moi. Et donc je pense qu'à un moment il s'est peut-être dit je roule, et puis on l'a informé finalement que Pogacar était à nouveau sur le vélo, et là il s'est dit j'attends.
C'est ce qu'on doit compléter à nous, pour nos auditeurs, c'est que c'est pas une glissade, hein. C'est une gamelle. Top level, quoi. C'est une vraie belle grosse gamelle. Hein. Il s'est pulvérisé, il s'est satellisé. Il a un peu de chance de tomber finalement dans un contrebas où c'est de la pelouse et de la terre fraîche. Mais il peut aussi percuter un muret et c'est fini de la course, de la saison, voire de la carrière. Donc c'est une vraie grosse gamelle à très haute vitesse. Après, on était autour des 70 km/h. Donc il aurait pu se faire très très mal.
Il a quand même de l'humour, et c'est ce qu'on aime aussi chez Tadej Pogacar, puisque dans la suite du son, il dit « J'ai voulu lui montrer à Pidcock que j'étais bon en descente, et on peut dire que je lui ai montré que j'étais plutôt nul. Je ne ferai jamais du VTT, c'est pas pour moi. »
Oui, excellent.
C'est clair qu'on est au moment de la chute, il y en a un qui attaque, qui veut le... Pidcock attaque et quelque part, il lui lance un défi. « Moi, j'attaque là où tu as attaqué l'an dernier. Viens me chercher. » Il joue égal à égal. Pogacar n'en rajoute pas. Et sur un parcours ultra technique à ce moment-là, Pidcock met sur les 2-3 virages précédents 2-3 longueurs à Pogacar. Et Pogacar, par orgueil, a pris ces risques-là. Voilà peut-être, et à l'avenir, il faudra y penser pour ses adversaires, une faille chez Pogacar. Il veut être le meilleur partout, mais il n'est pas, a priori, le meilleur partout.
Il n'est pas le meilleur défenseur. Et peut-être que cette chute aura des conséquences psychologiques dans d'autres descentes un peu plus tard, pour d'autres courses. On verra ça.
Ça a fait évoluer, en tout cas. On en reparlera tout à l'heure. L'avis de son équipe.
Ah, exactement. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, Jonas Vingegaard va attaquer les descentes comme il le faisait avant sa chute dans le Tour du Pays-Bas? C'est pas sûr, hein.
Un partout, balle au centre. Ouais, ils sont tous les deux tombés
Pas avec les mêmes conséquences pour l'un et pour l'autre.
D'ailleurs, on se souvient que sur le Tour 2023, Pogacar était tombé juste derrière Vingegaard dans la descente du col de Spandel. Ouais. Et Vingegaard l'avait attendu aussi pour se livrer la bataille après dans la montée d'Otakam.
Ah, c'est des gentlemen, c'est des seigneurs. Rappelez-vous aussi, Jan Ullrich qui attend Lance Armstrong qui chute en montée. C'était la montée du Sardinen en 2003. Il avait tapé moins fort Armstrong puisque c'était en montée.
Il a accroché une casquette.
Il avait été attendu par Ullrich et ensuite il avait mis une mine à Ullrich et il était allé gagner. Donc ça sert à rien de les attendre. Ils finissent toujours par vous rattraper, vous dépasser et vous humilier, ces gens-là. Donc c'est pas une bonne idée. Pidcock sentait sans doute que Poggi allait revenir. En tous les cas, Pidcock a vraiment fait la course ce samedi. C'est vrai qu'on n'était pas très optimiste, hein, Pierre-Yves, au vu de la liste des engagés dans ces Strade Bianche. Ouais. Beaucoup d'absents, dont Mathieu Van Der Poel, qui considère que c'est désormais une course pour les grimpeurs. Du coup, on n'en attendait pas monts et merveilles, hein, sachant que Pogacar allait sans doute écraser la concurrence. Mais Pidcock a montré qu'il a de l'orgueil, qu'il a envie de se battre et qu'il n'est pas facile à battre.
C'était l'adversaire numéro 1 finalement pour Pogacar. Et d'ailleurs, quand on regarde le classement des dernières éditions, on avait les deux derniers vainqueurs. Donc c'était assez logique. Et moi, j'ai trouvé ça bien quand même qu'il place cette attaque, qu'il montre à Pogacar qu'il était bien là, même s'il savait qu'il était sans doute inférieur. Mais c'est vrai que moi, j'ai été très surpris quand on a eu les premières images de voir qu'il y avait si peu de monde dans le peloton. Il n'y avait plus que 30 coureurs parce qu'il y a eu énormément de chutes et de blessures. Hein, parce qu'il y a 5 fractures.
Beaucoup de blessés sur cette dernière.
5 fractures, c'est quand même assez énorme. Et puis aussi, on peut rappeler quand même ce ce petit signe de Pogacar, on parlait de son humour, quand il repasse, puisque c'est la nouveauté depuis l'année dernière, de repasser le collet Pinzuto, de faire une petite boucle avant le final, quand il est repassé sur ce virage où il avait chuté au 50e kilomètre, donc juste avant d'être dans le secteur où il va attaquer finalement, bah, il fait un petit signe avec le pouce, l'air de dire, vous avez vu, hein, je l'ai bien passé le virage cette fois-ci. Donc il est quand même d'une lucidité incroyable, puis derrière, il place son attaque. Et il met 10 secondes au champion olympique de VTT en moins de 300 mètres. Donc, il y a une différence de puissance incroyable, encore une fois.
Pogacar. Ce qui se passe aussi sur cette dernière édition, c'est qu'on retrouve, à part Tom Pidcock, qui a fait le taf, qui a été l'adversaire principal de Pogacar, les mêmes écarts que l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est au-dessus de tout le monde. Il y a Pidcock qui est meilleur niveau que quand il était chez Ineos. Et puis après, derrière, il y a les autres. Et c'est toujours 3 minutes, 3 minutes 30.
Ouais,
on est toujours
dans la même
lignée.
C'est pas une crainte pour cette épreuve, justement, du fait de la présence de Pogacar et de sa supériorité manifeste dans cette épreuve. La crainte que les autres grands champions cyclistes décident de ne plus s'aligner au départ de cette course, qui était sur le point de devenir une classique, hein, qui est considérée comme quasiment une classique par les autres coureurs. Mais là, du fait de la supériorité de Pogacar, on a l'impression qu'ils ne veulent plus y aller, quoi.
Oui, mais justement, peut-être que cet incident, cet accident, cette chute vont rappeler à tout le monde, va rappeler à tout le monde qu'il y a la possibilité bien de s'imposer face à Pogacar. Parce que si ça se passe à un autre moment de la course où il n'y a pas que deux coureurs, s'il y a déjà un train qui est en place avec une équipe qui a encore deux, trois garçons, bah, ça roule. À mon avis, ça n'attend pas Pogacar. Hein. Donc la décision peut être tout autre à ce moment-là.
Ouais. Il y a aussi un truc qui quelque chose qu'il faut noter dans cette Strade Bianche, c'est la fatalisation, je ne sais pas si on dit ça, des autres équipes, c'est-à-dire qu'on abdicte.
On abdicte dans le sens où
moi, où est l'équipe Visma Lease Bike? Ils sont où? Ils sont sur Paris-Nice avec Jørgensen et Vingegaard, d'accord, mais on a quand même 30 patates de budget, on a envie d'avoir la plus grande équipe du monde. Ils sont où? Ils sont où? Quand moi, on prend l'antenne au moment où Vingegaard où Pogacar a déjà fait un peu de différence avec ses coéquipiers, ils ne sont plus que 20 et il n'y a plus un maillot jaune. Non. Il n'y a plus un membre de la deuxième meilleure équipe du monde. Donc, peut-être que la carte, comme tu dis Christophe, le produit proposé par l'organisateur, Van Der Poel dit aujourd'hui c'est une étape de grimpeur. Ce n'est pas une course de grimpeur. Il a gagné la course avec le menu proposé avec 300 mètres de dénivelé en moins. J'ai regardé l'historique, il n'y avait que 300 mètres de dénivelé en moins par rapport à cette année. Mais il n'y avait pas Poggi. Ce n'est pas un problème de parcours, c'est un problème d'adversité. Oui. Est-ce qu'on a peur de l'adversaire? C'est déjà se résoudre à dire, on va aller sur quelle course où il n'est pas. Donc, il est rentré dans la
tête
de tout le monde. Le
problème, c'est qu'il est partout.
Et voilà, et il est capable de gagner partout. C'est un champion de l'ère moderne qui est capable de gagner sur tous les terrains.
Pogacar qui remporte là donc ses troisième Strade Bianche, qui va maintenant s'atteler à un autre objectif italien, Milan-San Remo, dans un peu moins de deux semaines, l'un des deux monuments qui manque encore à son palmarès. Alors on en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais c'est peut-être le monument qu'il aura le plus de mal à remporter. La Primavera ne s'offre pas au premier venu, même si Pogacar n'est pas le premier venu, mais elle ne s'offre pas non plus toujours au plus fort, hein, Jérôme.
Non, souvent.
Au plus malin ou celui qui a le plus de bol, quoi.
Ouais, c'est plus la plus...
La
Primavera, c'est la plus tactique et la plus ouverte des classiques parce que la moins difficile aujourd'hui. Il faut être clair, Milan-San Remo ne fait plus... Le Poggio ne fait plus la différence. Et dans une côte comme le Poggio, bah, il y a 80 coureurs qui sont capables de passer cette course-là. Et Pogacar a beau être le plus fort du monde... Il
Pogacar ne peut pas arriver, en attaquant d'un peu plus loin, arriver à lâcher les coureurs comme il le fait dans toutes les autres côtes, sur les autres courses du calendrier.
Non.
C'est pas possible.
Parce que c'est pas assez raide, Christophe, et parce que c'est pas assez long, et parce que c'est pas assez usant, et parce qu'il faudrait prendre tellement de risques dans la descente pour réussir à garder l'avance qu'il aurait gagné dans la montée. Il y a énormément de choses, mais tant mieux, parce que ça reste un monument incroyable où un sprinter peut gagner, un grimpeur peut gagner, un puncher peut gagner, et un second couteau. J'ai énormément de respect pour certains coureurs, mais Jasper Stuyven a gagné Milan-San Remo. c'est pas le plus grand des coureurs. On a un coureur comme ce coureur allemand dans les années 2010-2015 qui a gagné lorsqu'il y avait autant de neige que de goudron sur la route. J'ai oublié son nom, l'épreuve a été coupée. Bref, il a gagné Milan-San Remo. On se rappelle que dans les histoires de Milan-San Remo et dans l'histoire de cette classique, ce qui fait l'excitation de cette classique, ce qui fait l'essence même de cette classique, c'est qu'elle est très ouverte. Et il peut se passer n'importe quoi. Elle est ouverte autant à des sprinteurs de très haut niveau, des punchers de très haut niveau, des grimpeurs de très haut niveau, mais aussi, quelque part, des outsiders de très bon niveau. Et c'est ça qui fait la force de cette course. Et comme tu l'as dit, Pogacar, c'est peut-être celle-là qui aura le plus de mal à gagner.
Gérald Ciolek, vainqueur en 2013.
Gérald Ciolek, voilà, avec qui j'ai couru chez Quickstep. Enfin, je suis impardonnable d'avoir oublié son nom. Il a gagné Milan-San Remo.
Il a gagné devant Sagan et Cancellara.
En plus, ouais.
Quand même.
Il gagne devant les
cadres. Cancellara qui a gagné aussi les Strade Bianche sur un parcours quasiment équivalent à ce qu'a fait. Et c'est pas un grimpeur, Cancellara. Bien qu'à certaines époques, il était un peu grimpeur. Mais c'était un autre temps et les coureurs forts s'imposent dans les grandes courses et ça continuait d'être le cas, et c'est ce qu'il faut se dire.
Et puis alors, l'autre monument qui manque encore au palmarès de Pogacar, c'est évidemment Paris-Roubaix. La semaine dernière, dans Bartoli Time, le Slovène avait laissé clairement entendre qu'il souhaitait s'aligner dans l'affaire du Nord dès cette année. Une participation, Pierre-Yves, qui pourrait être mise en question par cette chute, non pas en raison des blessures, c'est pas très grave, les blessures de Pogacar, ça va vite être réparé, mais plutôt de la trouille du staff de Team Emirates, qui était déjà pas très chaud à l'idée d'aligner sa star sur les pavés, et qui est encore plus refroidi et qui là va tout faire pour l'empêcher d'y aller.
Oui, forcément. C'est Mauro Gianetti qui était aux premières loges samedi d'ailleurs pour voir le soleil de son coureur et qui a tenu après la course à rappeler que Paris-Roubaix c'était peut-être pas une bonne idée. J'espère qu'il ne le fera pas cette année. Je le lui redirai, à marteler le manager général du AE. Il a encore du temps dans sa carrière pour courir Paris-Roubaix. Je ne cesse de lui dire qu'il doit attendre avant d'y aller pour ne pas prendre de risques, parce qu'il pourrait vraiment se faire mal. Une mauvaise chute pourrait remettre en cause le Tour de France et peut-être même toute la saison. Et c'est vrai qu'en cela, Gianetti a pas tort, et ça va être intéressant de voir qui est vraiment le patron dans cette équipe. Pogacar, aujourd'hui superstar, est-ce qu'il peut imposer sa participation comme il l'avait laissé entendre il y a un mois avec ses images de reconnaissance dans la trouée d'Arenberg ? Ira ou ira pas ? Réponse peut-être seulement après le Tour des Flandres le 6 avril. On sera à quelques jours
parce qu'il avait dit que ce serait plutôt après Milan-San Remo, mais c'était avant la chute.
C'est ça, et je pense qu'un petit test sur le Tour des Flandres pourrait quand même être décisif, à moins que du côté du AE on lui dise c'est non. Et tu ne gardes même pas la possibilité.
Alors la question, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire non, c'est non à Pogacar, Jérôme?
Impossible. Aujourd'hui, la décision, elle est entre Poggi, son staff et son agent. Carrara, qui a été consulté et qui fait un peu le rôle de médiateur dans cette histoire-là. Poggi a envie d'aller à Paris-Roubaix. L'avancée de son staff, et notamment de Mauro Gianetti, qui dit on verra après le Tour des Flandres, c'est faux. Paderstraat, Akuk, Kemmelberg, Patersberg, le mur de Gramont, tout ça sont des dangers imminents pour la santé de Tadej Pogacar, et notamment le Akuk et le Patersberg, qui sont des pavés à plat et donc une amorce dangereuse. Il peut tomber là aussi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un coureur qui est le meilleur coureur du monde a envie de dire « moi, j'ai envie d'aller à Paris-Roubaix ». Quelles armes ont ces dirigeants pour le contraindre de ne pas y aller ? De lui dire que c'est une course dangereuse, le Tour des Flandres est une course dangereuse ? La Strade Bianche est une course dangereuse et toutes les courses auxquelles il va participer sont des courses dangereuses. Si Tadej Pogacar a envie de faire Paris-Roubaix et de gagner Paris-Roubaix, il n'y va pas pour participer, il ira. Il n'y a personne qui réussira à lui dire non, il ne faut pas y aller pour le Tour de France. Le Tour de France,
ça veut dire
qu'il l'a déjà gagné.
Il peut mettre une croix sur une saison, un Tour de France de 3 semaines. Ça a légende d'aller au-delà des 5 victoires pour une course d'un jour.
Ouais, mais parce que sa légende, ce serait aussi de remporter
Paris. Mais Pilou, il a déjà gagné.
Il a du temps pour le faire.
Et il a encore du temps aussi pour gagner le Tour. Mais bien sûr.
Pierre-Yves.
Sachant
c'est
que
peut-être
son
plus dur de gagner une course
sachant
de
que son adversaire principal.
Ah, tu sais, celle-là, elle n'est pas facile à gagner.
Alors, je vais te,
quand
je vais
il
te
est au
la
départ
contre...
du Tour de France, il a quand même 60% de chances de gagner, même sur trois semaines. Au départ de Paris-Roubaix, je ne suis pas si sûr qu'il ait autant de pourcentage de réussite. Hein.
Ça, les chutes si, sur le Tour de France, si. Tu les as aussi sur les ouais, premières ouais, étapes parce ouais. qu'il y a de la tension. C'est multiplié quand même par 21.
Est-ce que ouais, je peux justement. Avoir une théorie qui vient de l'au-delà en se disant que Tadej a envie de gagner toutes ces courses-là parce que le Tour de France, la dernière fois qu'il a eu affaire au mec qui peut chatouiller sur cette course-là en pleine forme, il l'a perdu et il se dit que ce sera toujours ça de prix parce qu'il est plus vieux que moi et un jour la porte s'ouvrira. Parce qu'attention, il y a quand même 5 ans d'écart entre les deux, entre Vingegaard et Pogacar.
Donc ça,
et que 4 ans d'écart entre les deux, il y en a un qui arrêtera plus tôt. L'autre, il est premier à gagner encore 5, 6, peut-être 7 Tours de France en tout dans sa carrière. Paris-Roubaix, c'est différent. Paris-Roubaix, c'est en pleine force de l'âge et c'est à ce moment-là que l'on a moins peur qu'on prenne
plus tard. Ils n'ont que 2 ans d'écart. 3
ans ouais, d'écart, tu... quasiment.
Il y en a un qui a 26 et l'autre 28. Donc,
donc ça fait quasiment 3 ans, parce que je crois que l'autre va avoir 29 avant que...
10 décembre 96 pour Vingegaard.
Et donc moi je pars du principe que Pogacar ne peut pas faire un choix entre gagner Paris-Roubaix et ou gagner Tour de France. Il doit y aller à Roubaix s'il se sent capable de le gagner. Peut-être que ça n'arrivera plus jamais. Qui est aujourd'hui le grand bonhomme de Paris-Roubaix ? Citez-moi-en, hein. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est un coureur qui sait que s'il s'aligne...
Le grand bonhomme
même...
de Paris-Roubaix en ce moment ?
Aujourd'hui, c'est
qui ? C'est Van der Poel, quand même.
Bah, ouais.
Qui a gagné une fois.
Pas gagné
pour le
deux.
Moment.
Pas gagné deux.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
T'as quand même des garçons comme Van Aert qui sont aussi
capables... Et Van Aert, il a la ramasse, Pilou. C'est fini, Van Aert. Un mec comme Pogacar qui s'aligne à Paris-Roubaix, son seul et unique adversaire, c'est Mathieu Van Der Poel. C'est le seul qui est capable de le battre. Moi, je pense qu'il a tout intérêt à y aller.
Double vainqueur de Paris-Roubaix, Van Der Poel. Ouais,
Van Der Poel, je viens de voir aussi. Deux. Ouais. Après... Ce garçon-là est tellement capable de tout que s'il n'y va pas cette année, peut-être qu'il le regrettera toute sa vie.
Ouais.
Et moi, je pense qu'il a toutes les capacités à la fois de gagner Paris-Roubaix, de couper un peu, de gagner Liège et de gagner le Tour de France. Je ne vois pas pourquoi l'un n'irait pas sans l'autre. Et de toute façon, ce n'est pas parce qu'il fait Roubaix qu'il ne gagnera pas le Tour, sauf d'une chute, comme vous l'avez dit, gravissime. Mais l'an dernier... Vingegaard a perdu le tour en tombant au Tour du Pays Basque.
Oui. Et Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège.
À chaque fois que l'on s'aligne sur une course, c'est dangereux.
Paris-Roubaix, est-ce que c'est une course plus accidentogène que les autres ? Est-ce qu'elle procure des blessures plus graves que d'autres courses ? Parce que sur les pavés, bon, si tu tombes, évidemment, tu te fais mal, mais tu vas quand même à des vitesses un peu moindres quand tu es dans une descente du Tour du Pays Basque ou même d'Estrade Bianche. Hein. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi elle serait plus dangereuse que les autres. Évidemment, tu tombes plus souvent, mais tu ne te fais pas plus mal que sur les autres courses.
Je ne pense pas que tu aies 5 fractures l'an passé, comme sur l'Estrade Bianche cette année. Hein. Je pense que là, c'était plus accidentogène, l'Estrade Bianche. Hein.
Ouais.
Et puis en plus, c'est un garçon qui, quand même... Alors, on ne va pas retenir sa chute dans ce virage à l'Estrade Bianche. C'est un garçon qui est surdoué sur son vélo, qui est capable d'aller de très, très bien sur tous les domaines. Et surtout, c'est un garçon qui va pas aborder la tranchée de Valère Sarenberg en 50e position. C'est-à-dire qu'il va attaquer la tranchée dans les 10 premiers.
De sa roco dans la trouée.
Moi, pour avoir fait Paris-Roubaix, je suis tombé dans la tranchée parce que j'étais 60e et qu'il y a des mecs qui sont couchés devant moi. Mais tu sais, il y a les meilleurs et les autres. C'est les autres qui tombent. Rarement les meilleurs. À part des conditions extrêmes et un Johan Museu, etc. Mais sinon, des grands champions, énormes champions qui ont compromis leur carrière et leur suite de leur carrière, voilà, et leur saison dans une chute à Paris-Roubaix parce qu'ils n'avaient rien à y faire, il n'y en a pas. Donc, le Lion des Flandres est tombé dans cette tranchée de Valère Sarenberg à une époque où c'était gras et que ce n'était pas la même époque. Aujourd'hui, peu de gens peuvent me dire il a perdu sa course, il a perdu sa saison et il a perdu sa carrière à Roubaix parce qu'il était bien placé, c'est tombé devant. C'est très rare.
T'étais pourtant dans la meilleure équipe pour être bien placé dans la trouée d'Arambert, je sais pas comment.
Et pourtant, je peux te dire que je n'ai jamais fait Paris-Roubaix dans cette équipe-là, donc tu dois revoir tes archives, mon filou.
Comme quoi, non, mais comme quoi, ils avaient une bonne vision.
Dans, dans cette équipe-là, j'aurais jamais été au départ.
Avec ses 10 kilos tout mouillés, il n'allait pas le prendre sur, sur les pavés pour protéger les autres.
J'aurais même pas imaginé me mettre au départ.
Très bien. Bon, la réponse pour Paris-Roubaix, on aura dans les quelques semaines à venir.
En tout cas, on l'espère en tant que passionné.
Alors, justement, donc, vous... Alors, tiens, on va faire un petit pari. On va voir un peu quels sont les avis de la bande de Grand Plateau. Il sera pas. Pierre-Yves, tu penses qu'il y sera au départ de Paris-Roubaix?
Il y sera pas.
Il y sera pas. Kevin, tu penses qu'il y sera?
Je pense pas non plus.
Tu penses pas non plus. Moi, je pense qu'il y sera. Et Jérôme?
Il y sera.
Et ben voilà, on est à deux partout. On va devoir être départagé par Roxane, mais qui comprend rien, mais qui surtout n'écoute pas.
Donc, c'est ça. Elle va dire oui. Elle va dire oui comme le chef.
Ah oui, c'est ce qu'elle dit. Elle n'avait pas du tout écouté. Elle n'avait pas du tout écouté. Donc,
Moi, je peux dire, je pense qu'il y sera parce que c'est lui qui va choisir et il a a priori très envie d'y être. Il a a priori très envie d'y être.
Ouais.
Mais Jérôme, quand on donne 8, 10, 12 millions même, on sait, les chiffres sont un peu, ouais, un peu flous, ouais, de salaire qu'on l'a prolongé jusqu'en 2030, un contrat XXL, c'est deux fois plus que ses concurrents. Est-ce que quand on a eu Emirates, on n'a pas aussi un peu son mot à dire sur le programme de son leader?
Écoute, mon petit chat, je vais t'expliquer quelque chose. Le sponsor UAE est à la botte de M. Carrara et de M. Pogacar.
Et
si M. Pogacar dit... Tu donnes de la thune pour que je fasse du spectacle, je gagne des grandes courses. On a déjà gagné le Tour de France. Mais cette année, c'est bonus fois 2 si je gagne Paris-Roubaix, parce que Paris-Roubaix, Pogacar, un vainqueur du Tour qui gagne Paris-Roubaix, on va rechercher dans les archives très très loin. L'an dernier, il a fait un truc exceptionnel, il a gagné le Giro et le Tour. Cette année, je vais te faire un autre truc, je vais gagner Roubaix et je vais gagner le Tour. Première étape, c'est gagner Roubaix. Tu me laisses y aller ou pas? Le sponsor va dire oui. Le sponsor va dire oui. C'est tout.
Ouais.
C'est lui qui décide. Aujourd'hui, il est devenu le propre patron de son équipe. Et à sa place, j'aurais envie d'aller à Paris-Roubaix. C'est tout. C'est comme ça.
Très bien. Bah, nous verrons dans quelques semaines. Alors, dans un instant, on va parler de Paris-Nice. Mais tout d'abord, une petite pause, évidemment, histoire de respirer, de prendre un peu d'air. La gamelle de Pogacar que tout le peloton présent sur les Strade Bianche, mais aussi sur les autres courses, a certainement visionné et revisionné. Ça a dû être le cas de Jonas Vingegaard, qui lui, l'an dernier, dans le Tour du Pays Basque, là aussi dans une descente, s'en était beaucoup moins bien sorti que Poggi. Le Danois, qui lui a donc entamé ce dimanche la deuxième course par étape de la saison, après avoir remporté le Tour d'Algarve, c'était il y a deux semaines. Ce n'est pas la première fois que le double vainqueur du Tour s'aligne au départ de la course au soleil. Sa première expérience, il y a deux ans, n'avait pas été couronnée d'un franc succès, avec une troisième place seulement derrière Pogacar et Gaudu, ce qui ne l'avait pas empêché ensuite de tout rafler en 2023, mis à part la Vuelta qu'il avait laissée à son coéquipier Sepp Kuss. Est-il, selon vous, dans l'obligation de s'imposer à la fin de semaine à Nice, sachant que tout le monde guette quand même un peu ses performances pour savoir s'il sera à nouveau le seul à pouvoir faire vaciller Pogacar sur le Tour l'été prochain? Il a la pression, Vingegaard, sur ce Paris-Nice, Jérôme?
Ah bah oui. Il a la pression parce que c'est le numéro 1 et que c'est le favori incontesté, incontestable de cette course. Il est de nouveau à son meilleur niveau, me dit-on. Je le constate, moi, par ses résultats autour d'Algarve. Même s'il a gagné que le chrono et qu'en montagne et sur les deux étapes un peu difficiles, il a été mis en difficulté. Il est le favori numéro 1 quand tu es vainqueur du Tour par le passé, que tu as ce grand tour à ton palmarès. Et surtout, l'excuse, en tout cas... L'argument pour dire que tu n'as pas été à la hauteur lors du dernier tour parce que tu es tombé, il est revenu, il a fait une préparation normale, il arrive au départ de Paris-Nice, ses deux grands adversaires principaux lorsqu'il a fini troisième, Gaudu et notamment Pogacar, sont pas là, donc il doit gagner Paris-Nice. S'il ne gagne pas Paris-Nice, ça sera une contre-performance.
Ouais, tu es d'accord, Pierre-Yves?
Ah oui, oui, bien sûr. Même si on est très loin du Tour de France.
Oui, on est très loin du Tour, quoi. Et puis, je veux dire, en 2023, il est troisième et derrière, il gagne tout. Hein.
Oui, oui, oui.
Non, mais on est dans la reconstruction, là. On est dans la reconstruction. Ouais. Pilouf, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais là, il doit réaffirmer qu'il est là, quoi.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire après, c'est que c'est pas toujours un grand entre guillemets vainqueur de grand tour qui s'impose sur Paris-Nice, mais quand vous êtes là et que votre programme c'est d'aller gagner derrière un Tour de France, c'est quand même un signe à envoyer aux adversaires de montrer que bah, dès le 15 mars vous êtes déjà prêt et que même si derrière il reste un certain nombre d'épreuves, vous coup, c'est important aussi le psychologique et le mental et de
mais
montrer.
C'est super important, surtout de nos jours. Ouais.
Et surtout à Pogacar, j'ai envie de dire qu'il craint pas grand chose parce que s'il voit que Vingegaard n'arrive pas à gagner Paris-Nice, bon,
ah ouais, alors
dire,
là, ça va être tranquille. Sérénité totale. Ouais, c'est ça. Il y a aussi la guerre psychologique entre les deux qui est instaurée depuis le début de la saison. Alors, le principal rival dans la course au soleil de Vingegaard ne sera autre que son équipier américain, Matteo Jurgensen, qui en l'absence de Vingegaard s'était adjugé la victoire finale l'an dernier. Jurgensen qui n'est pas venu pour faire de la figuration, Kevin, hein, l'Américain est ambitieux, il ne s'en cache pas et il a bien envie de bisser, de récidiver dans la victoire dans ce Paris-Nice. Hein.
Le vainqueur en titre arbore évidemment le dossard numéro 1 et il dit « Je veux gagner Paris-Nice, c'est mon objectif, mais pas question de déloyauté » parce que Jurgensen affirme aussi dans la même phrase « Jonas est beaucoup plus fort que moi, la question ne se pose même pas ». Il est donc venu pour épauler Vingegaard, être un plan B de luxe cette semaine, si tout ne se passe pas bien pour le Danois. L'idée, c'est plutôt, en vue du Tour de France, d'arriver à un niveau pour constituer lui aussi une menace pour Pogacar, un niveau où le Slovène sera obligé de me suivre si j'attaque, dit Jurgensen, qui habite donc dans le pays niçois, qui est parfaitement francophone. Alors Vingegaard pense que son super coéquipier peut gagner un grand tour. Visma Lease a Bike lui a même proposé d'être le leader sur le prochain Giro. L'Américain a décliné la proposition trop tôt, estime-t-il, à 25 ans. L'année prochaine, il acceptera. J'ai besoin d'une autre année à aider Jonas à me découvrir sur le tour, dit-il. Après cela seulement, il pense pouvoir jouer le général sur 3 semaines. C'est un coureur posé. Son tempérament n'inspire pas la crainte d'une guerre d'ego au sein de la formation néerlandaise. Jurgensen, coureur tout-terrain, a quasi le même programme que l'an dernier. Il espère faire un quasi copier-coller même de sa saison 2024, où après sa victoire sur Paris-Nice, il avait gagné à travers la Flandre, fini deuxième du Dauphiné, huitième du Tour de France et même neuvième de la course en ligne des JO.
Voilà des propos raisonnables de la part de l'Américain. On y croit, on n'y croit pas. Il est encore là pour apprendre aux côtés d'un double vainqueur du Tour. Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, j'y crois absolument pas, moi, déjà.
D'accord,
parce que... parce que je sais pas si tu as vu les images, Pilou, hier, mais il y a une petite seconde au passage, il l'a pris lui. Et ça reste un Américain et que. Le jour où ça va être à lui de briller, il va prendre la place et il demandera à personne de la prendre.
Il est ambitieux, il a les capacités, comme le disait Kevin, il a fait 8, il a déjà fait 20 sur le tour. On sent la courbe complètement ascendante et j'ai envie de dire, il est mûr. Il est mûr pour aller croquer le leader ou que ça puisse faire des étincelles éventuellement. Donc on connaît ça dans toutes les équipes. Hein. Donc,
et historiquement, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois.
Et oui, c'est ça. Exactement. Et on y est là. À mon avis, à partir du moment où il déclare que voilà, il a encore besoin d'une année, il va essayer de prouver que justement, il est là, il est à la hauteur et que oui, il va partir, mais qu'il va montrer déjà qu'il est plus, le numéro 2, quoi. C'est numéro bis entre guillemets.
Ouais. Bah, je pense qu'il a aussi ce facteur surprise qu'il maîtrise parfaitement. Il est pas bête, il est bien encadré, il est entouré par son propre staff là-bas à Nice. Et la meilleure façon de gagner son premier grand tour et de ses premières grandes compétitions, c'est la surprise. Comme Jan Ulrich. C'était Bjarne Riis à une époque et il est arrivé. On n'a pas fait attention à lui, il était très fort et il a surpris tout le monde. Et Matteo Jurgensen sait très bien,
Chris Froome a fait la même chose avec Wiggins.
Ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'ils entretiennent les deux, mais Jurgensen sait que lorsque son heure viendra, de toute façon, Poggi ne se méfiera que d'une personne, c'est Vingegaard. Et que Jurgensen aura peut-être à ce moment-là la bonne idée de surprendre tout le monde. Et c'est comme ça qu'il pourra s'imposer une première fois. Après, de continuer à s'imposer, c'est difficile. Mais pour gagner une première fois, il faudra faire comme ça. Donc sur ce Paris-Nice-là qui vient, il a déjà pris quelques secondes. On est en train de mettre un peu le bazar au milieu de la formation. Puisque si aujourd'hui c'est sprint, demain c'est contre-la-montre par équipe, il sera en jaune si l'équipe Visma Lease a Bike réalise une énorme performance. Et dans le prochain tour, eh ben, il faudra choisir. On ne choisira pas. Donc, Jurgensen a le rôle parfait. Le rôle parfait.
Et on aura une bonne indication mercredi. Il y a une arrivée à la loge des gardes. C'était déjà une arrivée en 2023. Et Vingegaard avait fini 6e à 43 secondes de Pogacar qui avait gagné l'étape. C'est une montée de 7 km à 7% de moyenne. Vingegaard avait ce jour-là fini derrière Gaudu, Paré-Peintre et Vauclin. Donc on verra cette semaine. Il y a aussi l'étape du lendemain qui arrive sur la côte de Saint-André. Quel niveau il a, quelle forme il a. Il a dit quand même le samedi dernier qu'il n'était pas en top forme, qu'il était bien dans sa trajectoire, mais mais par exemple, il n'a pas fait d'altitude encore pour l'instant dans sa saison. Donc, il s'est plus entraîné chez lui. Voilà, donc il a un peu changé son programme cette année pour aborder différemment le Tour de France.
Très bien. Kevin, quels sont les coureurs qui pourraient se mêler à la bagarre pour le classement général final et empêcher les Visma de décrocher le maillot jaune dimanche à Nice?
Bah déjà, il y a évidemment chez Emirates UAE trois candidats possibles. Il y a McNulty qui avait fait troisième l'an dernier, Almeida qui a fini d'ailleurs derrière Vingegaard sur le tour de l'Algarve au général. Il y a Sivakov aussi, éventuellement même Narvaez qui a pris des bonifications dimanche sur le sprint avant l'arrivée. Et puis il y a également aussi le double vainqueur, Maximilian Charman, qui est maintenant leader de la Soudal Quick-Step. On peut également citer Alexander Vlasov, Ben O'Connor, pourquoi pas même Félix Gall, le leader de Decathlon G2R.
Voilà, il y a un beau petit plateau quand même au départ de ce Paris-Nice. Et on verra évidemment tout au long de la semaine quels sont ceux qui peuvent sortir du lot. On pourrait peut-être miser un peu quelques copecs sur le team Emirates qui est là pour bien embêter les Visma. Ils l'ont bien fait déjà dans le Tour d'Algarve. Les Français dans tout ça, me direz-vous. Bon, on rappelle que le dernier vainqueur tricolore de l'épreuve se nomme Laurent Jalabert, vainqueur en 1997. À l'époque, Pierre-Yves avait encore tous ses cheveux, c'est vous dire si ça date.
Oui, c'est vrai.
A priori, Jean n'aura donc toujours pas de cheveux. Et Jérôme aussi avait des cheveux en 97.
Oui, hein. Bien sûr.
Il en avait peut-être. Oui. J'étais junior.
J'étais junior, j'étais tout petit. Alors, pas de successeur pour Jalabert, sans doute. Mais on peut espérer quand même quelques victoires d'étape. Pourquoi pas un succès de Julien Alaphilippe, par exemple, hein, présent au départ de la course, qui est un programme très, très chargé en ce printemps. Il en a parlé à Kevin avant le départ de Paris-Nice.
C'est lourd, c'est que des grandes courses au plus haut niveau. J'aime bien et je prends ça comme un challenge, hein, mais j'aime aussi ce genre de course, la pression que ça engendre. Je préfère toujours courir que d'être en stage. Je peux que me réjouir de ça. J'aime aussi les Strade Bianche, mais il fallait faire un choix.
Voilà, il fallait faire un choix. Il a fait le choix de la course au soleil. Comment tu l'as trouvé, Kevin, Julien, avant le départ et depuis qu'il est parti dans ce Paris-Nice? Il a retrouvé le sourire. Tu le trouves ambitieux?
Très souriant, très taquin même. On l'a interrogé samedi sur la différence qu'il percevait déjà après quelques mois dans cette formation Tudor entre cette nouvelle équipe et l'ancienne. Et bon, il nous a répondu d'abord la couleur du maillot, le bus, il est super, machin. Donc en fait, il était très déconneur. En fait, c'est le Julien qu'on aime, cette personnalité qu'on a retrouvée, qu'il avait un peu perdue sur les derniers mois dans son ancienne formation. Pour le côté ambition, il pense que mercredi, ça devrait être une étape pour les candidats au général. Peut-être que ça pourrait s'ouvrir plutôt pour jeudi, parce qu'on compare aussi cette côte de Saint-André un peu au mur de Huy, évidemment, comme sur la Flèche Wallonne qu'il a déjà remporté.
Exactement. Alors, je rappelle son programme du printemps. C'est vrai que c'est un programme copieux. Milan-San Remo, le Grand Prix E3, le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Rien que ça. Hein, que les grandes classiques donc au programme de Julien. Alors, sur ces grandes classiques, ce ne sera pas évident de s'imposer avec les Pogacar, avec les Van Der Poel, avec les Van Aert et tous les fantastiques qui seront là. Mais une victoire sur les routes de Paris-Nice cette semaine, ça semble envisageable selon vous?
Moi, je pense pas.
D'accord.
Non, mais de la même façon que Jérôme dit Van Aert, c'est fini. Julien, je pense que c'est compliqué encore, même s'il nous surprend de temps en temps à réussir à aller chercher
même catégorie, Oui.
Les anciens fantastiques, hop là.
C'est pas possible, c'est qu'il y a du monde maintenant et que dans la catégorie Julien Alaphilippe, il y a aujourd'hui plein de gens qui sont capables d'être meilleurs que lui. Et je connais que trop bien cette équipe dans laquelle il vient. Il faut se remettre en selle, il faut changer d'attitude, il faut remettre des méthodes de travail en place et ça ne se fait pas comme ça. Et pour moi, il a les ambitions, il n'a pas changé lui-même, mais le moteur n'est plus le même. Et malheureusement, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à, sur un condensé de course World Tour et de classique de tous les jours, à un Julien dominateur. C'est possible sur un grand tour, sur des étapes de transition, des étapes difficiles qui sont pour les coureurs très forts, mais qui n'ont plus d'ambition classement et qui sont dans les meilleurs, oui, mais sur une course comme Paris-Nice, chaque jour, et regardez le palmarès de Paris-Nice depuis des années, c'est un grand nom qui s'impose. Et aujourd'hui, malheureusement, Julien Alaphilippe est un grand nom du presque passé et plus du présent. Et on verra peut-être, j'espère que je me trompe, mais il aura du mal à s'imposer parce qu'on s'impose toujours à la jambe à Paris-Nice. Il n'y a pas d'échappée de long fleuve et pas d'échappée, on va dire, que le classement général laisse aller l'échappée. Et donc, peu de chance pour lui de s'imposer.
En revanche, sur les classiques que tu citais, Christophe, il peut aller en chercher une.
La flèche.
Ouais, on ne sait jamais.
Ouais, mais est-ce qu'il a la même...
Non, mais sur une journée... C'est possible.
Ouais. Bon, on verra. Écoute, on lui souhaite en tous les cas parce que.
Et on souhaite aussi qu'à Paris-Nice, il s'impose.
Hein. Ouais.
On regrette aussi une chose, les garçons. Je sais pas si vous le regrettez vous, c'est que notre meilleure carte pour une course d'une semaine française qui s'appelle Kevin Vauclin ait choisi l'Italie plutôt que la France. Ça, c'est un vrai regret pour une équipe française qui cherche aujourd'hui des partenaires, qui cherche à se maintenir en World Tour, qui cherche à séduire pour aller. Continuer l'aventure, je trouve très dommageable que le meilleur coureur français actuel pour ces courses d'une semaine ne soit pas au départ.
Il a peut-être regardé aussi le plateau de Tirreno et il s'est dit qu'il y a peut-être plus de chances d'y briller que sur Paris-Nice aussi.
Hein ouais, Il fait dixième du chrono aujourd'hui.
Ouais.
Gagné par Filippo Ganna, mais Paris-Nice, c'est Paris-Nice. Tirreno, pour la France, c'est pas Paris-Nice.
C'est pas grand-chose, mais enfin, dans son palmarès, c'est en termes de points, ça ramène du lourd aussi, quand même, si tu brilles dans Tirreno. Oui, Kevin.
Il n'y a pas eu de victoire d'étape sur Paris-Nice pour les coureurs français depuis 2022. Il y en avait eu deux cette année-là, et il n'y en avait pas eu avant, depuis 2018. Donc, ça ne sourit pas ces 6-8 dernières années aux coureurs français, ce Paris-Nice.
Ce qui est important, Kevin, Christophe et Pilou, c'est de comprendre ce qu'est devenu Paris-Nice. Paris-Nice est devenue une épreuve de très, très, très haut niveau. C'est-à-dire que c'est une épreuve qui, aujourd'hui, malgré ce qu'on puisse dire, aujourd'hui, il n'y a pas les deux favoris.
À l'époque, quand
tu avais
Merckx et Poulidor qui s'alignaient au départ, c'était aussi une très grande épreuve.
Entre les deux, j'ai des petits coureurs, et j'appelle ça des petits coureurs, comme moi, qu'on fait dans les 10, 12 premiers. J'ai dû faire 12e ou 13e à Paris-Nice. Aujourd'hui, ce serait impossible, Christophe. Parce que le niveau est tel qu'il n'y a pas de place au hasard. C'est chaque jour un grand champion qui gagne et des grands coureurs qui s'imposent à coup de seconde. Sur un parcours comme cette année, je suis à peu près persuadé qu'à mon époque, avec des Contador, avec des coureurs de... Il n'y avait que très peu de coureurs qui brillaient sur le Tour qui étaient là. Avec ce niveau-là, il y avait moyen pour les coureurs de français du Tour. Sandy Cazard a fait trembler les plus grands à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est une très, très grande épreuve.
Bon, eh ben on espère quand même que malgré tout, un coureur français réussira à tirer son épingle du jeu durant cette semaine. Après Julien, on va évoquer les autres tricolores, justement, ceux qui se sont distingués cette semaine. C'est l'heure de notre baromètre des Bleus.
RMC, le baromètre des Français.
Et oui, parce qu'il n'y a pas qu'Alaphilippe comme coureur français au départ de la course au soleil. Il y a aussi Arnaud Démare, le coureur de la formation Arkea BNB qui a signé une très belle deuxième place dimanche lors de la première étape de la course au soleil, battu uniquement par l'imbattable Tim Merlier, qui sera très difficile à battre. Un Arnaud Démare un peu frustré, mais qui reste ambitieux et focus pour la suite. On l'écoute.
C'est un beau sprint maintenant. Je me satisfaisais sur mes premières, deuxième places début de saison. Maintenant, il faut que ça change. J'avais encore l'ouverture jusqu'à 150 mètres. Et puis, je lance, mais Tim Merlier avait lancé un poil plus tôt. J'ai jamais pu revenir. C'est encourageant et voir comment ça se passe avec les échappées. Non, je me sens bien. Il faut concrétiser ça.
Il se sent bien, nous dit Arnaud Démare. Il se sent bien. Alors, on parlait de Julien Alaphilippe, coureur du passé, ou presque, plus que. Je sais. Dans quelle catégorie tu ranges Arnaud Démare, Jérôme?
J'adore Arnaud, hein, mais plus que la même. C'est-à-dire que si je crois que Julien peut gagner une étape sur Paris-Nice ou sur des grandes épreuves encore en ce moment, je pense qu'Arnaud n'en est plus capable. Et sauf parce que c'est un sprinter et que sa spécificité technique à lui et sa force à lui, c'est le sprint. Et donc, on ne sait jamais dans un sprint. Hier, la photo finish parle pour elle. Il y a un mec et les autres. Troisième, c'est Danese. Quatrième, Molano. Cinquième, Axel Zinglet, qui n'est pas un sprinter, qui est quasiment sur la même ligne qu'Arnaud. Arnaud et peut être satisfait de sa deuxième place, mais pas nous dire qu'il voyait remonter et qu'il allait pouvoir chatouiller. Non, il est loin derrière. Il est très loin derrière. Et dans l'espace-temps qui est occupé par ce vide intersidéral dans la photo finish derrière Merlier, je te mets 10 sprinters. Donc Arnaud est le 11e ou 12e sprinter du monde.
Je ne sais même pas s'il va réussir à faire les 100 victoires. J'aimerais vraiment pour lui, ça serait mérité pour sa carrière.
Sur une course de moindre importance.
Mais il n'y a plus de course de moindre, c'est ça Toff, c'est ça le problème.
Ouais.
C'est que même en gagnant la Vallée de la Loire, ça ne me comptera pas. Hein. Il faut gagner une course professionnelle et dans les courses professionnelles
France,
aujourd'hui.
Il peut gagner une Coupe de France, non? Il a encore.
Vas-y, fais-moi le palmarès des Coupes de France dans laquelle il peut s'imposer.
Oh, là, tu m'en montres trop.
Bah oui, mais faut que je travaille moi, je connais deux jours pour faire ça. Parfaitement le calendrier. Je peux te dire que ça va être très compliqué. Il est en deçà de beaucoup de coureurs. Pour moi, aujourd'hui, alors qu'il était beaucoup plus rapide que certains, le petit Zingle, Christophe Laporte, Penouette,
hein.
Même Brian Cocquart, peut-être parfois, sont plus rapides que lui. Il est là, le problème.
Ok, bon, bah écoute, j'espère que tu te trompes. J'espère que tu te trompes sur toute la ligne, dans tout ce que tu nous as dit
depuis
tout à l'heure.
J'espère aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a un sprint. Et le vélo, c'est le vélo, c'est du sport. Il y a une vague, Merlire est bloquée.
C'est de la voile, n'oublie
et
pas.
Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc le Douride ne sera pas content. Il n'y aura pas de bordure à Paris-Nice. Mais Merlire peut être bloqué. Et le meilleur derrière Merlire, ça peut être... Arnaud Démare, mais ça peut être aussi Molano, ça peut être Albanese, ça peut être Valscheid, et ça peut être Kilich. Donc le problème, il est là, c'est qu'ils sont tous sur la ligne derrière.
Bon, eh ben, nous verrons ça. Ce sera tout à l'heure avec Kevin pour l'arrivée de cette deuxième étape. Et pour ceux qui écouteront le podcast un peu plus tard dans la semaine, ils connaîtront le nom du vainqueur de cette deuxième étape de Paris-Nice. Il y a d'autres étapes pour les sprinteurs d'ici l'arrivée, Kevin, ou ça va se faire rare après
ce sera éventuellement vendredi arriver à Berlétan, mais sinon, non, il y aura du dénivelé tous les autres jours et puis le contre-la-montre mardi par équipe.
Très bien. Coup de chapeau également dans Grand Plateau à Alexis Brunel, le coureur de l'équipe Total Energy qui a renouvelé avec la victoire ce dimanche lors du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat en Belgique. Brunel qui est de retour dans le peloton cette saison après 2 ans et demi de coupure pour cause de dépression. Malgré cette longue coupure, eh bien, il semble avoir conservé toutes ses qualités. C'est une victoire réjouissante. Hein. Il a fait un gros numéro en plus hier, hein, Jérôme Pierre-Yves. Hein.
C'est énorme ce qu'il a fait parce que c'est pas son premier coup d'essai. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, que ce soit la Classica Valenciana, la première course de la saison, il est déjà passé tout près. Il a déjà fait ce genre de numéro. Alexis Brunel est un coureur hors classe. On connaît tout son talent, on connaît tout son potentiel. Il avait besoin de la tête, il a pété un peu les plombs ces 3 dernières années, mais il revient et il est déjà au niveau. C'est-à-dire que il n'a pas trié les radis dans le jardin de papy pendant ces 3 années-là. Il a fait du vélo, il a fait du triathlon, il a fait du gravel. Il est resté sous pression. Et hier, il a prouvé que, en fait, quand on a du talent, il suffit de bien travailler et de se remettre la tête en place pour être parmi les meilleurs. Ça n'a pas de comparaison face aux 2-3 filles qui ont quitté le peloton depuis quelques semaines, depuis quelques années, qui sont revenues au plus haut niveau. Là, c'est vraiment... la preuve que ce garçon a énormément de talent et pas étonnant. Mm-hmm. Et pourtant, je ne fais pas souvent des compliments à Jean-René Bernadeau, mais pour le coup, pas étonnant que ce garçon s'épanouisse dans cette équipe-là.
Eh bien, nous verrons cela et on lui souhaite un petit coup de chapeau également pour nos Françaises qui se sont distinguées dans l'Estrade Bianchi, à la différence des garçons. Les Français n'ont pas brillé dans l'Estrade Bianchi. Chez les filles, en revanche, Pauline Ferrand-Prévot prend la 3e place devant Juliette Labousse, Labousse qui a travaillé pour sa leader, Demi Vollering. Donc 3 et 4. Voilà, c'est pas mal. Pierre-Yves
Van der Breggen, deuxième.
Van der Breggen, deuxième. Deux Hollandaises.
Qui avait arrêté, elle, d'ailleurs. On parlait de ceux qui avaient arrêté, mais travail énorme de Juliette Labousse qui peut-être sous d'autres couleurs aurait été capable de gagner les Strade Bianche parce qu'elle était très très forte samedi.
Et oui, elle est aujourd'hui lieutenant de Demi Vollering qui est quand même la meilleure coureuse au monde. Voilà donc pour ce grand plateau, on va laisser Kevin aller nous commenter les arrivées de Paris-Nice. Hein, il s'entraîne évidemment pour les sprints et pour le Tour de France. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Tu répètes Team Merlire, Kevin.
Il est facile à reconnaître, il a un maillot blanc.
Arnaud Démare en rouge.
Arnaud Démare est en rouge. Avec ça, on devrait s'en sortir. Merci Kevin, merci Pierre-Yves, merci Jérôme.
Ciao.
Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Évidemment, on est au cœur de la saison des classiques qui débutent et au cœur de ce Paris-Nice qui sera terminé dimanche prochain. Bonne semaine à tous et à lundi.